C'est Black and Blue, figurez-vous. Bienvenue à tous. On salue le retour d'un vétéran de Black and Blue en la personne de l'excellent Claude Niort, qu'assistera Lydwyn Caron. Le rôle prestigieux de la mise en scène ayant été confié, comme il est de tradition désormais, comme il est très profitable pour tout le monde, à Françoise Cordet, notre égérie. Et maintenant, l'histoire de la batterie, lue en diagonale par Georges Pakzinski. Mon cher Georges, dois-je comprendre que l'histoire de la batterie est une autobiographie parce que c'est vous que l'on vient d'entendre assis derrière une batterie qui se compose, je le dis pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas vu direct sur le studio, d'une caisse claire, d'une grosse caisse de 2 tomes, un tome médium, un tome basse, de 3 cymbales, 2 cymbales ride sans cloche avec des tonalités très différentes, on a pu s'en rendre compte, une cymbale crash et une charleston. Voilà, je n'ai rien oublié.
Non, en effet, Alain. Vous dites c'est autobiographique. Effectivement, c'est l'amour de ma vie, il faut quand même bien le dire. Je suis un amoureux du son, je suis un amoureux du tempo, je suis un amoureux de la peau, du métal et du bois. Vous voyez, Alain, je crois que c'est ça. Je crois que vous aussi, vous êtes un amoureux de cet instrument. Donc, je ne trahirai pas un secret. Je vous vois déjà sourire, n'est-ce pas? Mais oui, parce que là, regardez, pour quelqu'un qui ne connaît pas cet instrument, c'est quand même incroyable. C'est l'instrument le plus ancien de l'humanité, le croiriez-vous? Parce que lorsque je joue sur la caisse claire, j'ai une baguette, je joue, je donne un coup, un autre coup, je donne des coups. C'est un geste vertical. Ce geste vertical, où la baguette se prépare, la main prépare le geste monte et on abat le coup. Et donc, on peut dire que le fait même de faire un geste vertical, c'est toute la construction des civilisations. Donc, en fait, c'est la fabrication des premiers outils, c'est les premiers australopithèques, c'est la vallée de l'Homo en Éthiopie, c'est le geste qui a construit après toutes les civilisations en Égypte, en Inde, en Mésopotamie, en Grèce. Et tout ce monde-là est à partir de ce geste. Donc, en fait, si on se place un peu, en poussant peut-être le bouchon un peu loin, mais on abat le geste. C'est-à-dire qu'on tue le père, et finalement le son remonte et retourne vers la mère éternelle. Donc en fait, c'est plus qu'une image. On peut dire qu'à partir de là, qu'embrasse toutes les civilisations du monde, il y a cette notion-là d'abattre, de tuer et de transcender le son. Donc en fait, notre instrument, qui est le plus ancien de l'humanité, est en fait le plus récent. C'est ça qui est extraordinaire.
Alors, pour plus de détails récent. Sur ces points, je renvoie naturellement au premier chapitre de votre thèse, écrite il y a plus d'un quart de siècle.
Non, il y a longtemps, Alain. Ma thèse, je l'ai soutenue en 84, et le livre est sorti en 88, Rythme et gestes, les racines du rythme musical dans les civilisations anciennes. Et donc, oui, ça remonte.
Grâce à quoi vous avez mis un pied dans la porte de Black & Blue ?
Oui, en effet, c'est l'une de nos premières émissions, c'est formidable. Hein. Eh bien, écoutez, donc cet instrument qui est le plus récent et le plus ancien à la fois, le plus récent parce que c'est le seul instrument du XXe siècle, le violon, le saxophone, le piano, tout ça, c'était des instruments qui existaient auparavant, la trompette et tous les instruments, la batterie. C'est un instrument inventé au XXe siècle. Mais sa composition est extrêmement étrange. Parce que lorsqu'on regarde la grosse caisse que j'ai jouée tout à l'heure, d'ailleurs la grosse caisse que l'on joue au pied droit, alors évidemment, il faut qu'il y ait une pulsation dans cette grosse caisse jouée au pied droit. Cette grosse caisse, on l'appelait bedon au Moyen-Âge, vous vous rendez compte ? Et la caisse claire, originaire donc d'Europe. Et la caisse claire que j'ai jouée tout à l'heure... Voilà, un son de caisse claire, des roulements, des choses comme ça, on abordera la question un peu plus tôt en détail tout à l'heure, est également originaire d'Europe. Mais alors, curieusement, les tomes qu'on a ici, ce tome, le petit tome que l'on joue devant soi, et le tome basse qui est à ma droite, la combinaison des tomes avec la grosse caisse, cette combinaison-là, ces tomes, viennent curieusement d'autres continents. Ils viennent de Chine, ils viennent des Indiens d'Amérique, c'est extraordinaire, et ils viennent évidemment d'Afrique. Et les cymbales que j'ai jouées tout à l'heure. Ces cymbales, elles viennent de Turquie, originaires de Turquie. Mais vous savez, je sais que vous aimez bien mes cymbales chinoises. Alors, j'ai pas résisté, je vous vois sourire, j'ai pas résisté à l'envie de vous en jouer une ou deux. J'ai apporté les trois, j'en ai d'autres. Écoutez, celle-là, c'est une pure merveille. Il faut faire durer le son. Écoutez celle-ci. Autres, elles ont un rebord, elles sont vraiment... Ouais,
celle-là déjà d'un diamètre plus grand.
Hein. Plus grand, un diamètre plus grand, je les ai fait venir, elles ont mis 6 mois par bateau pour venir de Chine. Dans les années 60, personne n'avait ça à l'époque. Regardez, écoutez celle-là. C'est merveille. On va la faire durer un peu. Et puis la dernière que j'ai apportée.
C'est la plus grande.
C'est la plus grande.
Il faut rappeler qu'au début du siècle dernier, les percussionnistes, très souvent, les faisaient clouter ces cymbales-là et s'en servaient soit pour des effets spéciaux, soit même un petit peu plus tard comme cymbales ride, c'est-à-dire comme cymbales de tempo.
Absolument.
The Tissingleton, par exemple, ne se servait que de cymbales comme ça pour jouer le tempo. Oui. Il avait convaincu Dizzy Gillespie, notamment, que c'était formidable. Et Dizzy Gillespie en avait été persuadé. The Tissingleton lui avait donné une de ses cymbales, une très grande cymbale. Oui. Je crois qu'elle faisait quelque chose comme 55 cm ou 60.
Très grande, alors. Oui.
Et il a obligé, pendant des années, jusqu'à ce que l'outil en question se cassa, tous ses batteurs à jouer le tempo sur cette cymbale-là, en tout cas quand lui prenait ses chorus.
C'est ça. Alors ça, c'est incroyable. Alors vous savez, notre instrument a quand même quelque chose d'extraordinairement paradoxal. C'est le seul instrument qui se trouve dans cette situation. C'est que nous avons donc du métal, les cymbales, les pots que nous avons joués, et puis les baguettes, le bois. Et vous avez les fûts qui sont en bois. Alors comment faire, et c'est tout le problème du batteur, comment faire pour unifier tout ça ? C'est là la difficulté. Quand un violoniste joue une corde de violon, il joue le violon. Le pianiste joue des touches sur le piano. Le trompettiste, il a les pistons et il a le souffle. Le saxophoniste, pareil. Tandis que nous, nous sommes dans la situation, extraordinairement paradoxale, de jouer des choses qui n'ont absolument aucun rapport les unes avec les autres. Les cymbales, le métal, la peau, la distance à parcourir est très grande aussi vers la cymbale. Il faut arriver à faire un geste pour atterrir là, atterrir ici, jouer ici sur l'ensemble de la batterie, jouer ça. On franchit des espaces, on est là, on triture le son avec ce bois de la baguette, où le secret est évidemment qui est le son du bois, qu'on entende ça. C'est-à-dire qu'on lâche la baguette pour avoir un son bien rond, et non pas ça. Quand on tient les baguettes serrées, comme certains batteurs jouent très puissant, n'est-ce pas, mais avec un son sec, eh bien, ils ne font pas chanter le bois contre le bois. Et il faut arriver...
Rond est le plus aigu possible si on veut avoir quelque chose de qualité.
De qualité. Alors,
c'est une bonne façon d'acheter des bonnes baguettes, c'est de faire ce que vous venez de faire.
Vous voyez, et après, il faut bien entendu lâcher la baguette. C'est toute l'histoire de la batterie, ça. Quand vous voyez tous les batteurs, leur problème, c'est d'arriver d'avoir un beau son. Vous voyez, je crois que c'est la première idée qu'il faut se faire. Vous me direz, c'est valable pour tous les instrumentistes. Mais pour les batteurs, c'est un son d'abord, n'est-ce pas? Et quand on joue sur la cymbale, quand on joue... ce fameux shabada. Je lâche la baguette. Et je la dirige en même temps. Vous voyez, il y a une sorte d'aller-retour. Je vais vers l'instrument et il me revient.
Oui, l'un des problèmes étant que vous preniez tout à l'heure la comparaison avec les pistons, par exemple, d'une trompette. Les pistons d'une trompette produisent le son, mais n'y participent pas. Ou alors, c'est que vous avez mal huilé le système. Hein. Alors que dans la batterie, le son de la baguette participe au son que vous allez obtenir en jouant sur une cymbale ou sur des caisses.
Ça, c'est une des choses assez incroyables. C'est que d'abord, sans faire de cours, mais simplement, il faut avoir une musculature particulière. Je l'ai dit souvent dans d'autres émissions, il faut arriver à se former cette musculature pour pouvoir que la baguette soit généreuse et pour que le son sur votre instrument soit un son généreux. Quand vous jouez... vous essayez de vous abandonner dedans avec un geste plein et un geste généreux. S'il n'y a pas ça, vous n'arrivez pas à faire corps avec l'instrument. Alors, maintenant, Alain, bien entendu, le premier continent qu'il faut aborder, c'est évidemment l'Afrique. Et là, j'ai pensé à vous, Alain. Vous pouvez m'imaginer, je me suis dit, l'Afrique, avec tous les drames que l'on vit actuellement en Afrique, ce que ce continent est un peu à la dérive sous beaucoup de plans, il a quand même quelque chose d'éternel. C'est le titre de ce roman qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle « Terre de soleil et de sommeil ». C'est Ernest Psychary, c'est un auteur qui avait écrit ça en 1908 sur le Congo et la Mauritanie. Puis vous avez Pierre Loti, le roman d'un spahi, c'est incroyable, 1881, qui se passe au Sénégal. Puis vous avez Joseph Kessel, vous avez le lion de Kessel en 58. Vous avez notre livre favori, Alain, Conrad, évidemment, dans « Au cœur des ténèbres », où on remonte le cours de l'Afrique, d'un fleuve, au cœur de l'Afrique noire. Il y a tout ça, mais il y a autre chose aussi. Et là, j'ai pensé à vous, c'est que j'ai revu avant de venir aujourd'hui. J'ai regardé hier à nouveau le film de Jean Rouch, ou le film qui s'appelle « La chasse au lion à l'arc ». Et imaginez-vous, vous m'aviez appris, parce que j'avais vu ce film quand il est sorti en 67, et je crois que c'est un film qui retrace magnifiquement toutes les origines de notre instrument, parce qu'il y a l'atmosphère que crée Jean Rouch par l'image. Et vous aviez évoqué à l'époque, vous m'aviez dit, lorsque j'écrivais l'histoire de la batterie, vous m'aviez dit, mais oui, on appelle ça le pays de nulle part, le pays de...
le pays
de
qui est plus loin que loin.
Plus loin que loin. Et j'ai retrouvé encore la citation, c'est « La brousse qui est plus loin que loin, le pays de nulle part ». Et on est en fait à la frontière du Niger et du Mali. Et alors, à côté de ce film, alors il y a évidemment la percussion qui joue un rôle lorsque cette chasse commence à avoir lieu, mais il y a un autre film qui va avec celui-là. C'est un cadeau que je vous fais. Il s'appelle « Mais oui, écoutez ». il date de 72, et il s'appelle « Les tambours d'avant ». Les tambours d'avant. Il dure 9 minutes, et c'est un véritable régal. Il y a une danse de possession au Niger pour la protection des récoltes futures contre les sauterelles. Et vous avez cette volonté collective là d'un orchestre de tambours, et il y a une danse qui a lieu pour porter naturellement la musique rituelle dans l'oreille des dieux, comme le dit Jean Rouch. Hors caméra, on entend sa voix. Et là, il y a, je crois, il y a tout le mystère de l'Afrique et tout le mystère de cet instrument d'abord. C'est-à-dire que tout ce que nous allons entendre au fur et à mesure des émissions que nous allons avoir, il faut avoir en arrière-plan tout cet univers, non pas les rythmes écrits, bien qu'ils aient joué un rôle, mais tout cet univers de fond qui est une sorte d'Afrique éternelle, de, j'allais presque dire, d'Europe éternelle, d'Amérique éternelle, des Indiens d'Amérique éternelle, tout ce qui est hors, complètement hors du temps. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait capital. Parce que dans notre instrument, qui est donc un instrument récent, il y a tout ce passé prestigieux qui est là. Et lorsque l'on joue, par exemple, ces rythmes... avec une façon extrêmement, péremptoire, extrêmement puissante, n'est-ce pas ? Où on est, c'est Gene Krupa déjà, c'est le Gene Krupa de la jungle du Bronx, mais c'est quand même la jungle de l'Afrique déjà, avec tout ce que ça comporte de communication entre les gens. Il faudrait que nous entendions ces tambours de l'Afrique avant que nous rentrions dans le début de la naissance de la batterie proprement dite. Alors, un morceau qui est un Umbuwe, des chants et rythmes traditionnels du Burundi, pays des Rundi, pays d'Afrique centrale dans la région des Grands Lacs. Et c'est, on entend là, le rythme de base est donné par 7 tambours graves, tandis que 5 autres tambours plus aigus suivent les pas des danses du soliste. Chaque tambourinaire vient à tour de rôle exécuter sa danse au centre de demi-cercle formé par les autres. Il peut alors mimer son dévouement au pays en feignant de se trancher la gorge avec ses baguettes. « Je me sacrifie pour mon pays, que je meure si je le trahis. » Alors Alain, nous venons d'entendre Umbuwe, donc des chants traditionnels du Burundi, et maintenant on va entendre autre chose, les fameux talking drums, il est impossible de ne pas l'évoquer bien entendu, c'est-à-dire les tambours qui permettent de communiquer de tribu à tribu. Et là on va entendre les maîtres tambourinaires ghanéens, et on va entendre du Ghana, hein, le Odono, c'est le tambour parlant. Thank you.
qui ne serait pas allé en Afrique, il faut préciser que ces variations de la hauteur de son sont obtenues par un système de, j'allais dire de ficelle, il ne s'agit pas de ficelle, de lanières de cuir assez fines qui font se rejoindre les deux peaux le long d'un fût qui est assez long et taillé généralement grossièrement en forme de sablier. Et puis les peaux elles-mêmes sont manipulées grâce à une baguette en crochet que l'on tient d'une main et de l'autre main on joue avec les doigts. Voilà. Et évidemment ces tambours peuvent être de 30 à 40 cm jusqu'à plus d'un mètre. Et également le diamètre peut varier, ce qui permet d'obtenir des choses tout à fait extraordinaires lorsqu'on les fait jouer en batterie, c'est-à-dire lorsqu'il y a 5, 6, 7 tambourinaires qui s'expriment à la fois. Mais non pas à l'unisson.
Eh oui, c'est très impressionnant.
On a une polyrythmie tout à fait remarquable.
Ah, oui.
Et ça se trouve dans beaucoup de régions de l'Afrique. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre en Afrique de l'Ouest, mais je suppose que ce n'est pas qu'en Afrique de l'Ouest.
Oui, vous avez séjourné en Afrique, Alain, je le sais. Vous avez eu beaucoup d'expérience là-bas de voir cet univers, ce monde-là. Et alors, il y a évidemment le son tel que l'on joue la batterie, mais il y a aussi, je veux dire, le fait de jouer le tambour, mais il y a aussi le chant. Alors, écoutons ce chant qui est exécuté après la fin de la journée de travail. Le travail est fini, voici venir le temps de chanter et de danser, et c'est le groupe national de percussion du Kenya, c'est Djenjela Runyeye.
Jenje narun jenje
iya
jenje narun jenje
iya
jenje narun jenje
inakubara moto jenje
jenje narun jenje
iya
jenje narun jenje
iya
jenje narun jenje
inakubara moto jenje.
Il faut remarquer que ce sont des musiques comme celle-là qui ont inspiré, mais alors là de manière très directe, hein, on peut en faire l'expérience, des albums comme les deux volumes Blue Note d'Art Blakey qui s'appellent Origin Rhythm et les deux autres volumes qui s'appellent Holiday Foreskins, Vacances
absolument.
Pour les peaux,
hein,
où il y a Art Blakey, d'autres batteurs et quelques percussionnistes avec lui, dont d'ailleurs des percussionnistes qui ne viennent pas de cet univers-là, qui sont plutôt afro-cubain, hein. Mais il y a en même temps des chants, Herbie Mann parfois qui joue de la flûte, et on obtient... Moi, je ne connaissais pas, contrairement au précédent, cet enregistrement-là, et je trouve que vraiment, c'est l'ancêtre direct de ces albums d'Art Blakey.
Alors, je crois qu'il y a une chose aussi, Alain, très importante, qu'il faut avoir présent à l'esprit. Parce que le tambour, parce que c'est quand même les tambours, tels qu'on les vit, tels qu'on les entend en Afrique, et qu'est-ce qu'il représente en fait ? Il représente, c'est un sorcier qui est au contact du centre du monde. C'est un siège de l'arbre cosmique qui relie le haut et le bas. C'est le rapport entre l'âme et le corps. C'est le rapport entre le ciel et la terre. Il est dans un temps sacré aussi, fondamentalement sacré. Et il a pour fonction, comme dans toutes les civilisations traditionnelles, c'est une initiation qui a pour but de, autrement dit, au bout du compte, de dissoudre la dictature du moi, quoi. C'est-à-dire d'être là, de complètement transcender la personne qui la joue. D'ailleurs, on en a des exemples, nous, quand on voit Elvin Jones jouer. C'est plus Elvin Jones, c'est quelque chose qui l'habite, qui est extraordinaire. Quand on voit d'autres batteurs que nous connaissons ensemble, ils transcendent le son, ils transcendent leur personnalité, et quelque chose au travers de leur personnalité va porter le son vers les gens qui l'écoutent. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait capital. Donc on a beau être, par exemple, extraordinairement technicien, je veux dire, faire beaucoup de choses, s'il n'y a pas intérieurement quelque chose de très profond, de très simple en même temps, et de transcendant, on ne peut pas comprendre cet univers-là, à supposer qu'on ait à le comprendre. Mais plus exactement, le terme n'est pas bien choisi, il faut le vivre. Et là, à ce moment-là, il y a tout à fait une sorte de... Le maître chaman et le sorcier, ils ont pour but d'envoyer les gens vers la voie royale, et donc en s'appuyant sur les conseils du maître. En fait, finalement, c'est tout un univers que nous avons abordé là. Et là, avec notre instrument, la batterie, eh bien, il y a déjà ça. Et je pense que cette idée-là ne doit pas nous quitter au cours des 10 ou 12 émissions que nous allons avoir ensemble. Parce que lorsque nous le verrons, certains batteurs jouent certains rythmes, ils font appel à notre conscience intérieure, des images qui nous habitent depuis toujours, et des images qui sont ou de l'Afrique, ou d'un paysage africain, ou d'une sensation, ou d'une odeur, quelque chose qui nous a habités, et qui tout à coup transparaît. Alors, maintenant, nous allons évidemment aller au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe ? Le tambour, il est associé à qui ? Il est associé au diable, c'est incroyable. Il y a des mais oui, alors ne riez pas, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est une peau, une autre peau, et de l'air à l'intérieur. Donc, on manipule quelque chose qui est complètement non maîtrisable, en quelque sorte, et en même temps que l'on joue, donc qu'on fait toujours ce rapport entre le haut et le bas, et donc il faut se méfier au Moyen-Âge des gens qui joue le tambour. Il y a des représentations de Lucifer qui joue le tambour avec les flammes de l'enfer. C'est pas, il y a ça, terrible. Et il y a un autre aspect, Alain, tout à fait incroyable. Les croisés, Saint-Jean d'Acre, sont assiégés par les Sarrasins. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Les nacaires, ce sont les immenses timbales sur les chameaux. Ils sont 300 chameaux, donc 600 timbales qui sont là et qui commencent à battre des jambes. Entendez ça, imaginez ça, multiplié par 600 devant des murailles, avant même d'avoir attaqué. Terrifiant. C'est une arme psychologique absolument redoutable. C'était au moment même où vous entendez les sons, vous commencez à être paralysé par quelque chose qui vous attaque intérieurement, qui vous plonge dans un univers seul où vous êtes là déjà, en quelque sorte, déjà prisonnier de l'ennemi qui va vous attaquer. C'est incroyable. Donc c'est une puissance psychologique. En même temps, un aspect transcendant et en même temps une puissance psychologique incroyable. Et alors, on avance dans le temps, parce que l'émission court. Alors, je pourrais être là dans cet univers pendant plusieurs émissions, là, vous imaginez bien. Mais je fais un petit peu plus vite. Notre caisse claire, puisqu'on arrive progressivement vers la batterie, mais notre caisse claire, elle est composée d'un certain nombre de figures. Alors, je vais les jouer. C'est toujours des composés de roulements. Le roulement, c'est deux coups de chaque main. Droite, gauche, gauche. Donc, deux coups de la droite, deux coups de la gauche. Et quand on fait ça à allure normale, à grande vitesse. Alors, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de comprendre que cette figure-là est la base de toute la technique du tambour et qui sera plus tard un des éléments de la technique de la batterie. Alors ça se subdivise par différentes figures qui sont des rats de trois. C'est des bouts de roulement, des bouts de droite, droite, gauche. Alors ça fait... Alors là... Ou de l'autre côté, gauche, gauche, droite. Puis après, vous avez des rats qu'on appelle, c'est un mot invariable, c'est des bouts de roulement qui sont des rats de cinq. Droite, droite, gauche, gauche, droite. Grande vitesse. Puis des rats de sept. On a raconté sept coups, puis neuf. Puis onze, qu'on commence à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis il y a les figures qui sont des flats, c'est des petits coups, vous les connaissez comme moi, tout petit coup et un coup fort, qui sont donnés quasiment en même temps avec un millième de seconde avant pour le petit coup. Quand on les alterne, et on a les marches tambours. Avec le roulement, bien sûr. Là, j'ai donné un coup de cymbale malheureux. Alors, cette codification, elle date. Ça a commencé. Imaginez-vous, je suis obligé de prendre mon papier pour vérifier les dates. Parce que s'il y a des spécialistes qui nous écoutent, ils disent « Ah non, c'était pas ça. Je vous vois venir. Alain, mais non, il s'est trompé. » Alors, essayons. À partir de 1670, on codifia les différents coups du tambour avec une signification précise. Et même en 1589, il y a orchestrographie d'un certain Toineau Arbeau qui explique la technique du tambour et ses figures rythmiques telles qu'elles se pratiquaient à deux baguettes dans les corps des armées. Alors, il y a quand même une autre chose qui est extrêmement importante à savoir, c'est qu'en fait, bien plus tard, on appellera ça dans le tambour américain les rudiments, comme vous le savez. Mais ces rudiments ont une origine. Et cette origine, c'est incroyable à le dire, c'est la garde personnelle du Vatican. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Que les figures qui ont été codifiées viennent donc du Vatican, enfin d'un endroit qu'on ne pourrait pas imaginer. Eh bien, les gardes avaient eu l'idée donc de codifier ce tambour. Alors, je vous ai amené quand même des marches napoléoniennes, puisqu'on arrive vers Napoléon. Alors, rien que pour vous faire plaisir, j'ai sorti ma méthode. Vous savez, j'ai une méthode là qui est incroyable. C'est une vieille méthode, elle est rafistolée. Je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Et écoutez, c'est la méthode de Robert Tours. Alors, ça fait grandiose. C'est une méthode de tambour, du théâtre national de l'opéra, de la musique, de la garde et des concerts colonnes. Vous vous rendez compte, c'est grandiose. Alors là, il y a dedans toutes les codifications du tambour. Il y a toutes les figures que je viens de jouer. Et puis, il y a les marches napoléoniennes. Alors, les marches napoléoniennes, il y a d'abord... Peut-être avant la marche napoléonienne. Si, on va faire la marche napoléonienne. Alors, peut-être avant, par exemple, juste le début, par exemple, la batterie d'Austerlitz. Alors, la batterie d'Austerlitz, je vous vois sourire encore. Cette batterie fut composée sur l'ordre de Napoléon Ier, au lendemain d'Austerlitz. Seuls les régiments ayant pris part à cette bataille avaient le droit de l'exécuter. Alors, je vous joue juste le début, c'était encore un rat de cinq. Nos auditeurs pourront comprendre parfaitement la chose. C'est-à-dire, il y a un rat de cinq. Et puis après, il y a un petit truc très qu'on ne peut pas voir, parce que nous ne sommes pas à la télévision, c'est les baguettes l'une contre l'autre. Je frappe le haut de la baguette et le bas de la baguette contre l'autre baguette. Alors, ça donne quelque chose comme ceci. J'étais instructeur tambour en 69, en 69-70, et j'avais la responsabilité de 12 tambours. Alors, quand on jouait ça, on avait joué le Rigaudon d'honneur devant Georges Pompidou. Alors, non, mais imaginez, je vous vois rire, imaginez, vous êtes debout pendant 2 heures, vous êtes debout, vous avez les gants blancs, vous avez froid, vous attendez, vous êtes au garde à vous attendez, puis d'un coup, on vous dit, hop, il faut jouer ça. Ou, parce que ça, la batterie de l'Austerlitz, on ne la jouait pas devant le président, on jouait le rigodon d'honneur. Alors, il y avait le rigodon d'abord. Le rigodon, c'est une combinaison encore de rats de 5, donc de 5 coups, puis de rats de 3, gauche, gauche, droite, et puis une combinaison très simple, voire juste le début très lentement. Alors, c'est une combinaison de rats de 3, de rats de 5 et de rats de 11. Là, je joue à vitesse moyenne. Le fait de le jouer à grande vitesse, c'est... Voilà, ça donne le début et c'est ça à grande vitesse. Bon. Maintenant, il y a une autre batterie qui va vous faire rire. Parce que celle-là, on l'a complètement oubliée. On l'appelle la marche des éclopés.
Je ne l'ai pas oublié.
Vous ne l'avez pas oublié, non, celle-là. Non, non, non. Vous savez que la marche des éclopés, parce que je reprends mon papier pour lire exactement ce que c'était la marche originale et célèbre, appelée la boiteuse. également composé sur l'ordre de Napoléon Ier pour faire marcher les traînards et les éclopés. Alors, il y a les coups indiqués par une petite croix s'exécutent en posant sur la peau le plat de la douille de la baguette droite. Autrement dit, vous avez ce genre de choses. C'est, en fait, je pose la baguette verticalement contre la peau. Alors, la marche fait... Bref, toute une série de marches avec le rigodon d'honneur où il y a des trucs du genre. Bon, voilà. Alors, exécuter ça quand on est 11. Bref, on arrive progressivement vers la naissance de la batterie. Et alors là, il y a eu un fou en 1840. Un fou. Mais oui, non, mais il faut l'appeler comme ça. Nous sommes en 1840. Un certain Cornelius Ward a conçu une première pédale de grosse caisse. Alors évidemment, pris pour un fou, quoi. Je veux dire, vous rendez compte, 1840, c'est pas possible. Donc en fait, c'est bien plus tard, en 1887, qu'un certain George Olney déposait le brevet d'une autre pédale très originale, la swing ou overhanging bass drum pédale. Alors de quoi s'agit-il en fait ? C'était en fait l'idée est la suivante, quoi. Et le batteur, il est né parce que dans les régiments, dans l'armée, il y avait quelqu'un qui jouait les cymbales à la main, frappé. Donc on joue nous la Charleston pied gauche. Il y avait quelqu'un qui jouait la grosse caisse, quand nous, on joue pied droit, et il y a quelqu'un qui la frappait donc avec les mains, et il y a quelqu'un qui jouait donc le tambour, ce qu'on a joué tout à l'heure, la caisse claire. Et donc, il y a la première idée, c'est qu'il y a un, en inventant la grosse caisse qui était jouée, la cymbale, la grosse caisse et la caisse claire qui étaient jouées par trois personnes, il y a quelqu'un qui a eu l'idée donc d'inventer, d'en enlever un, d'être deux uniquement, celui qui joue les cymbales, celui qui joue caisse claire, grosse caisse. Et ça a donné le fait de faire donc des marches tambours, qui sont marches de l'armée, qui sont du genre... Voilà, des marches très, très, très pompiers, quoi. C'est devenu... C'est devenu là où il y a déjà un parfum de jazz, où il y a un parfum de swing. Et dans les marches de l'armée américaine, il y a déjà un parfum. Et alors, il y a un enregistrement que je dois à notre ami Philippe Baudouin, qui a réussi à me faire avoir des enregistrements. Vous savez que le premier orchestre de jazz, Alain, c'est, vous avez contribué tellement à ce travail, 1917, l'original Dixieland Jazz Band. Eh bien, grâce à Philippe, et grâce à votre collaboration également, Alain, nous avons des enregistrements de 1916, de 1914, 1912, et il y a un enregistrement de 1904, c'est incroyable, où il y a un certain James Lent. Alors, pour donner vraiment la précision de ce James Lent, d'ailleurs, je vous ai apporté cette méthode, c'est dommage qu'on ne soit pas à la télévision. Regardez, méthode raisonnée pour l'enseignement du tambour et clairon par Charles Gourdin. Et il y a en dessous, il y a marqué tambour, ex-tambour majeur de la Légion de la Garde républicaine, innovateur de la musique pour clairon, basse et contrebasse avec clairon d'ordonnance, tambour et grosse caisse réunies. Ses compositions célèbres, uniques et légendaires ont reçu le baptême du feu sur tous les fronts de la Grande Guerre 1914-1918.
Juste une parenthèse, il faut préciser à nos auditeurs que c'est une référence absolue en matière de musique, la musique de la garde républicaine.
Absolument.
Il ne s'agit pas du tout de rigoler lorsqu'on apprend que quelqu'un est musicien dans la garde républicaine, parce qu'on ne prend que les meilleurs des meilleurs.
Mais c'est des gens qui sont des musiciens extraordinaires.
Alors souvent, en même temps, ce sont les gens les plus demandés dans les studios.
Absolument.
Dès qu'ils ont des loisirs.
Mais
voilà.
Ce sont des gens qui jouent le tambour de manière absolument...
Oui, pas seulement les tambourinaires.
Oui, hein, bien entendu.
Tous les musiciens d'une manière générale, les violonistes, etc.
Absolument, non, mais c'est un corps d'élite sur le plan musical, incontestablement. Mmh. Alors nous allons entendre ce parfum de jazz, qui n'est pas un parfum, c'est un orchestre d'infanterie en Angleterre en 1904, et James Lent, Regimental Band, et il annonce d'ailleurs la couleur au début, et on va entendre cet enregistrement qui est incroyable, on entend une caisse claire, tout le travail de la caisse claire, les flats, les rats, tout, on entend tout, et c'est absolument superbe.
Mais c'est pas étonnant, parce qu'il y a l'influence de ce qu'on pourrait appeler, en général, les marches napoléoniennes, enfin,
oui.
Un certain tambour européen,
oui.
Disons, européen continental. Bon, il y a cette façon de les jouer aux États-Unis qui est différente.
Oui.
Et puis entre les deux, il y a les fameuses batteries écossaises.
Alors ça, c'est...
Avec une technique très très spéciale et un son aussi très particulier.
Un son très 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 aigu, très aigu,
avec des peaux très tendues.
Très tendues avec et ça swing. Ces marches écossaises sont extraordinaires. Elles swingent. On les travaille peu maintenant. Malheureusement, c'est quelque chose de formidable qui swing énormément et qui a influencé considérablement, évidemment, les marches de l'armée américaine, parce que tout ce monde s'est développé aux États-Unis, en Amérique. Et on n'a pas parlé, évidemment, du déplacement des Noirs de l'Afrique avec tous ces dépeuplements de l'esclavage qui a amené tous les gens vers la Nouvelle-Orléans et vers les débuts du jazz. Là, il faudrait consacrer plusieurs émissions à cela. Mais effectivement, ils n'avaient pas le droit d'utiliser leurs instruments parce que leurs instruments leur redonnaient une force intérieure extraordinaire. Alors, écoutons ce James Lent incroyable de ce 1904.
The ragtime drummer, played by Mr. James Lent and the London Regimental Band, Edison Bell Records.
Nous venons d'entendre donc James Lent et cet extraordinaire batteur. Donc on ne peut pas appeler ça un batteur, c'est quelqu'un qui joue la caisse claire. Vous avez vu qu'il jouait presque des woodblocks, et il joue les bords de caisse, tout ça. Et on a déjà un parfum complet de jazz. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, Alain, où on va partir à partir de la marche, qui est la marche, la chose fondamentale de la batterie de jazz.
C'était donc proposé par Georges Pegzinski, le prélude à l'histoire de la batterie de jazz lu en diagonale. L'équipe de cette émission se composait ce soir de Françoise Cordet, de Claude Niort, de Lydwin Caron. Les quatre personnes que je viens de citer se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente semaine.